Au quotidien, avec Hélène Denis.
Non, mais non, mais non.
Ça fait deux matins que je prépare votre introduction.
Ouais.
Et que je la mets pas dans la bonne fenêtre.
Ah, ben ça arrive. Non. Alors, c'est pas Hélène Denis aujourd'hui, c'est Denis Martin Chabot. Puis, je peux pas faire la blague pour vous dire que je suis de retour parce que je suis l'animateur d'été et qu'il fait beau et chaud. Ben non, on a eu notre première nuit de gel presque partout au Québec.
Même... Oui, pas ce matin.
Écoute, pas, c'était pas le gel ce matin, mais c'était pas très chaud pour la pompe à eau, comme dirait l'autre, Mathieu. Alors, bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour, Mathieu? Est-ce que tu t'en rappelles?
Attendez un petit peu, parce que ça fait 4 ans que vous êtes avec nous.
Oui, ben, probablement, ça pourrait être ça, mais parce que c'est 4 fois meilleur qu'une seule fois bonjour. Et aujourd'hui, ça m'arrive très rarement de parler de sainteté, mais on célèbre le 9 octobre un saint très particulier et très important. C'est Saint-Denis.
Ça pourrait être la Sainte-Monique.
Ça sera une autre journée importante. Allô, Monique Quirois, comment ça va?
Ça va bien, mais je pense que Sainte-Monique, c'est au mois de mai.
Alors moi, je vous dis que Saint-Denis, c'est le premier évêque de Paris et martyr du 3e siècle. Il est donc le saint patron de la France et selon la légende, après avoir été décapité, il a marché avec sa tête sous le bras jusqu'à l'endroit où il souhaitait être enterré.
Un petit lundi, quoi.
Ouais. Bon, écoute, on peut croire ce qu'on veut, les légendes et les contes et tout ça, on peut y croire comme on veut. Cela dit, aujourd'hui, donc, c'est la 282e journée de l'année. Il en reste 83 pour le bye-bye et donc 76 pour le réveillon de Noël. Ça s'en vient, là, faut commencer à penser aux cadeaux de Noël. Allô, Monique, est-ce que tu penses aux cadeaux de Noël, toi?
Non, pas maintenant. Non. Moi, je pense plutôt au jardin. Il faut couper tout ce qui est à peu près séché, tout ça. Non, je pense pas au cadeau de Noël en ce moment.
Ouais, moi, c'est ce que je vais faire en rentrant tantôt. Là, j'espère qu'il me reste les tomates qui me restaient ne sont pas trop endommagées, les courges, et puis je vais rentrer les herbes aussi aujourd'hui. Là, c'est le temps.
Ah oui.
Ouais. Alors, puisque tu es là, on va parler de quoi aujourd'hui à ta chronique, Monique?
Ben, j'ai été vraiment impressionnée par un dossier que Québec Science nous présente dans son édition du mois d'octobre-novembre, qui traite du diabète. Il faut savoir, Denis Martin, qu'à l'échelle de la planète, il y a plus de 530 millions d'adultes de 20, à 79 ans, qui seraient atteints de cette maladie. C'est, actuellement, on le sait, là, c'est contrôlé par la médication, mais il y a de nouvelles perspectives. Et c'est ce que nous raconte Bruno Lamollet dans Québec Science. Peut-être qu'on pourrait la prévenir ou la stopper, cette maladie.
Bon, alors ça va être au début de la deuxième partie d'émission, d'à peu près 25-30 minutes. Nous allons aussi discuter avec Morgan N. Luca, qui est psychopraticien, essayiste, formateur engagé dans la déconstruction des normes de genre et de la lutte contre la domination ou la toxicité masculine. C'est une entrevue que j'ai réalisée lors d'un passage à Paris cette année. Je vous la présente un peu plus tard à l'émission. On va aussi rencontrer la nouvelle direction générale et artistique des Filles électriques et du Festival Phénoménal. On va parler justement de ce festival. Et puis, on va aussi parler un petit peu de théâtre, Mathieu et moi, tout à l'heure. Je continue avec l'éphéméride du jour. En 1967, exécution de Che Guevara en Bolivie, marquant la fin de sa tentative de révolution en Amérique du Sud. Guevara, icône de la révolution cubaine, reste une figure emblématique du socialisme. 1835, c'est Camille Saint-Saëns, le compositeur français, auteur du Carnaval des animaux et de nombreux autres chefs-d'œuvre de la musique classique. Alors, c'était son anniversaire. Et il aurait eu 85 ans aujourd'hui, John Lennon, le chanteur et musicien et cofondateur des Beatles, et son fils, imaginez-vous, son fils est venu au monde la même journée. Il est venu au monde en 1975, donc il a 50 ans aujourd'hui. Eh bien, nous, juste le temps de vous dire, donc, rapidement, en météo, c'est à peu près ensoleillé un peu partout au pays, dégagé aussi, presque partout, et c'est un peu plus frais, surtout dans le sud du Québec et en Ontario, et dans les provinces atlantiques. Et le point chaud aujourd'hui, ça sera Terre-Neuve et Labrador, St. John's, où on prévoit 20 degrés. On s'en va en musique. Au sommet du temps, la tendée dans le brouillard.
étrange concoction de plantes. Était-ce le gouffre de leur fumoir? Était-ce la fumée de leur cigare qui lui donnait cette fièvre des Andes? À l'entrée de l'autre côté de son miroir l'attendaient d'immenses cieux. Les secrets du monde lui furent révélés ce soir.
Les trois accords, la fièvre ou fièvre des Andes.
Alors, un petit tour maintenant des actualités du jour. L'annonce d'un cessez-le-feu, l'espoir renaît à Gaza, en Israël, dans la presse plus, donc ce matin, 2 ans après l'attaque terroriste du Hamas et après un bilan humain vertigineux qui peut s'échelonner, en fait, entre 50 000 et 75 000 selon les sources. On parle donc de victimes à Gaza. Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre Israël et le Hamas sous l'impulsion du président états-unien Donald Trump. L'entente prévoit la libération des 48 otages restants à Gaza en échange de 1950 prisonniers palestiniens. 20 otages vivants devraient être libérés dans les 72 heures. La nouvelle a été accueillie par des scènes de liesse, particulièrement pour les familles des otages en Israël et des célébrations à Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de ramener tous les otages à la maison. De son côté, Donald Trump, qui a remercié les médiateurs du Qatar, d'Égypte et de Turquie, a assuré que tous les otages seront libérés très prochainement. Si l'accord est une première étape cruciale pour l'entrée d'aide humanitaire, des experts et des Palestiniens appellent à la prudence. La route vers la paix durable est encore considérée comme ardue. Québec envisage de réduire dramatiquement l'aide sociale aux demandeurs d'asile. C'est selon donc une étude, un projet de loi, un mémoire obtenu par Le Devoir. Selon ce projet donc du ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, le gouvernement du Québec pourrait limiter à 9 mois l'accès à l'aide sociale pour les demandeurs d'asile sans contrainte à l'emploi. Cette proposition, en attente d'être soumise au Conseil des ministres, s'inscrit dans la volonté de Québec de réduire la pression sur ses services publics si Ottawa ne parvient pas à mieux répartir les arrivants au pays. Le gouvernement Legault souligne que les coûts engagés par les demandeurs d'asile en 2024 s'élèvent à 733 millions de dollars. Ces coûts potentiels visent à réaliser des économies annuelles estimées à 261 millions de dollars. Si la mesure est adoptée, d'autres aides financières pourraient être abolies, notamment celles touchant les familles avec enfants et les mineurs non accompagnés, et en plus de limiter l'aide juridique, les billets de transport et l'accès à la francisation. Des failles de sécurité à Valcartier mettant du matériel militaire subtilisé, selon le Journal de Montréal. Des militaires de la base militaire de Valcartier ont réussi à subtiliser facilement des pièces d'armement, dont un chargeur de fusil automatique et un viseur optique de combat, afin de dénoncer un manque de contrôle flagrant. 3 mois après l'arrestation de 2 militaires pour terrorisme, ces lanceurs d'alerte craignent pour la sécurité de la population. L'équipement militaire peut rendre des armes civiles beaucoup plus létales. Entre de mauvaises mains, selon les experts. Les militaires affirment que la gestion des inventaires est si mal faite que les équipements disparaissent sans être signalés. La brigadière générale Marie-Christine Harvey, commandante de la 2e division du Canada, a confirmé que les forces canadiennes ont procédé à une inspection complète et prévoient renforcer les mesures de sécurité. Inégalité de genre dans les universités, les femmes touchent moins de primes selon la presse plus, malgré une proportion de professeurs approchant la parité dans les universités québécoises. Les femmes sont nettement moins nombreuses à recevoir des primes de marché que leurs collègues masculins. Selon les données de la presse, les femmes reçoivent non seulement moins de primes, mais sont également moins généreuses. À l'Université de Montréal, la prime moyenne s'élèverait à 12 876 $ pour les hommes contre 9 796 $ pour les femmes en 2024-2025. À l'UQAM, les femmes représentent 48 % du corps professoral, mais n'ont reçu que 29 % des primes. Cet écart s'explique en partie par la sous-représentation des femmes dans les domaines à forte rémunération, comme l'informatique et le génie, et par le fait que les femmes sont généralement moins enclines à négocier, selon les experts. Crise politique en France, un nouveau premier ministre attendu sous 48 heures, selon la presse plus. La France se dirige vers la nomination d'un nouveau premier ministre. L'Élysée a annoncé hier que le président Emmanuel Macron nommera un nouveau chef de gouvernement d'ici 48 heures. Cette décision intervient d'après d'ultimes consultations menées par le premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, qui avait quitté ses fonctions lundi après seulement 27 jours en poste. M. Cornu a affirmé que ces discussions écartaient le spectre de la dissolution de l'Assemblée nationale. Malgré tout, l'extrême droite continue d'exiger de nouvelles élections, la chef du Rassemblement national, Marine Le Pen, promettant de censurer tous les gouvernements jusqu'à l'obtention de la dissolution. Un autre point de tension demeure, la très impopulaire réforme des retraites pour laquelle M. Lecornu dit entrevoir la possibilité d'un débat, mais dont la suspension n'est pas confirmée. Le Québec veut créer un chien de garde pour sa future constitution. Le gouvernement du Legault, donc, selon le Devoir, s'apprête à déposer un projet de loi majeur en matière constitutionnelle. Le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, prévoit la création d'un conseil constitutionnel pour protéger la future constitution québécoise. Cet organe, dont la composition est encore inconnue, sera non judiciaire et aura pour rôle d'émettre des avis afin de mettre le Québec à l'abri des ingérences du fédéral. Cette recommandation émane du comité consultatif pour Rousseau. Le professeur Guillaume Rousseau souligne que l'objectif est d'avoir une constitution dont l'interprète n'est pas seulement les juges nommés par Ottawa. Le ministre Jolin Barrette déposera donc aujourd'hui la loi constitutionnelle de 2025 pour le Québec qui inclura une disposition pour modifier unilatéralement la Constitution canadienne afin d'y insérer le caractère laïque de la société québécoise.
Certains diront, excusez-la, c'était l'effet papillon du groupe Vilain Pingouin.
Alors, Mathieu, toi et moi, nous sommes allés au théâtre.
Oui.
Puis, bon, on peut peut-être parler d'un drôle d'effet, celui de jamais dire jamais.
Exact.
Vous allez voir ça mardi.
Oui, c'est un texte et une mise en scène d'Agathe Foucault. Il y avait sur scène Jade Barchi, ou Barchi, Clémence Eugène Dufresne-Délière, Zoé Girard, Catherine Lapointe, Dominique Leduc et Katia Lévesque. C'est présenté jusqu'au 25 octobre au théâtre aux Écuries. Sur la rue Chabot, au 72-85.
On dit la rue Chabot, je vais te corriger, toi.
Ah oui, bon, écoutez.
Bon, pas... alors, comme, on a vu la même pièce. Qu'est-ce que t'en as pensé?
J'ai trouvé ça intéressant. Est-ce qu'on peut collectivement essayer de réinventer le monde sans se fatiguer?
Ah, mon Dieu, on en
fait. C'est à peu près le thème de la pièce.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et de se réinventer le monde et de le faire dans l'imaginaire.
Oui,
hein, de
exact.
Sortir des codes, de sortir de la réalité. C'est une prémisse très intéressante, une prémisse très qui est quand même bien présentée, bien montée.
Les comédiennes sont bonnes aussi.
Oui. Alors là, il faut vraiment leur donner le chapeau parce que c'est beaucoup d'énergie. En une heure et demie, ça n'arrête pas du tout, là, ou presque pas. Toutes des personnages hein, assez typés, chacune, chacun. Il y a six comédiennes et une personne non-binaire qui joue dans cette pièce-là. Moi, personnellement, j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu long. J'ai trouvé que par moment, on l'a vu, on l'a fait, et on voyait qu'éventuellement, on se rend compte que même dans l'imaginaire, ça prend de la réalité pour que ça fonctionne.
Mais on le voit sur scène aussi, dans le texte, c'est exactement ce qui se passe avec certains personnages qui finissent par être fatigués d'utiliser leur imaginaire, puis ils veulent juste un break de leur imaginaire.
Bon, cela dit, c'est un bon divertissement, ça nous fait réfléchir.
Oui.
Comme je dis, j'ai trouvé que la performance était superbe. La mise en scène aussi, quand je suis rentré, c'était un désordre monumental sur scène. On a blagué. Il faudrait que quelqu'un fasse le ménage. Puis effectivement, ils le font.
Oui, parce qu'il faut dire que ça se passe dans une salle, un sous-sol paroissial.
Une salle communautaire.
Oui, et ils doivent partager avec d'autres utilisateurs de la salle.
Ouais.
Et c'est un thème aussi qui apparaît dans la pièce.
Oui.
Il faut se ramasser. Mais ça les sort... de leur club imaginaire.
Oui, puis à force... Ben en fait, moi, j'ai vu une belle image, c'est qu'à force de vivre dans l'imaginaire, on ne sait plus quoi inventer, et puis, oups, il n'y a plus rien. À la fin, la scène est complètement vide. Et ça, je trouvais ça intéressant comme proposition. Écoute, moi, c'est clair, comme je dis, il y a des petites lacunes. J'ai trouvé que c'était un petit peu long, qu'il y avait des choses qui se répétaient. Cela dit, c'est un... Ne brisez pas votre plaisir, c'est le fun, ça fait du bien.
C'est absurde.
C'est absurde. Puis ça fait du bien, ce théâtre-là, on n'en fait pas assez. Justement, je parlais récemment de la reprise de Rhinocéros au théâtre de Denis Pelletier, qui, c'est intéressant parce qu'ils l'ont mis au goût du jour. Il y a des gens qui vont peut-être être choqués, mais où on peut mettre le théâtre au goût du jour. Ils ont coupé à peu près 35 minutes de ce texte.
Ah, quand même.
Ouais.
Est-ce que vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu. Okay. D'abord, pour moi, c'est une production géniale. Très belle proposition aussi du théâtre de Denis Pelletier. Et surtout que Rhinocéros, c'est un peu une allégorie sur l'avancée de l'extrême droite.
Mm-hmm.
C'est un peu l'avancée des régimes totalitaires qui étaient à l'époque vus par l'arrivée. L'histoire, c'est que les gens deviennent tous des rhinocéros. C'est du théâtre de l'absurde. Et les gens, au départ, trouvent ça un peu curieux. Puis maintenant, tout le monde y adhère et sans trop se poser de questions. Et je trouve qu'il y a comme un message assez puissant. Hein?
Je me souviens plus de la date de création de cette pièce-là.
Ça fait plus de 60 ans que ça existe.
Mais comme je suis allé voir Mommy le retour,
ouais.
Je dirais que c'est dans le thème ces temps-ci là, des pièces. Ben, en fait, c'est la réalité, le retour de l'extrême droite.
Le théâtre, il va, hein, parce que je pourrais aussi vous parler du chef-d'œuvre hein, qui est le théâtre d'une exécution qui passe au rideau vert. Ça, à mon avis, c'est un chef-d'œuvre. L'interprétation de Sylvie Drapeau, elle est géniale. Je n'ai rien à redire sur cette pièce-là. Tout est bon, tous les comédiens, le timing, la direction d'acteur, la scénographie. Écoutez, ça, c'est à ne pas manquer. Puis effectivement, l'histoire, grosso modo, ça se passe à Venise à la fin du 18e siècle. Et on impose à la peintre de faire un tableau d'une bataille. Et évidemment, le doge, la personne qui dirige Venise, lui dit « Je veux que ça ressemble, que ça nous donne une image glorieuse. » Alors qu'elle, il voit la mort, la souffrance.
La réalité.
Et là, on essaie de lui faire dire ou faire peindre des choses qu'elle ne veut pas. et on la jette en prison et tout. Et quelque part, et à la fin, on récupère ce tableau et on dit, ben, d'ici quelques années, les gens verront ça comme étant un tableau à la gloire de notre système électoral et tout. Alors, c'est intéressant. Il me semble que le théâtre, en fait, vous pouvez penser aussi à Âme, au Théâtre du Nouveau Monde, qui est, à mon avis, pas aussi réussi parce que c'est un texte plutôt poétique qu'un texte dramatique, de texte de Kim Sui, mais quand même, avec l'interprétation absolument fabuleuse de Cynthia Oumaheu, ça aussi, ça parle de ce qui se passe au Québec présentement, mm-hmm. l'immigration.
Puis, oui, ben non, allez-y. En fait, vous vouliez nous parler aussi de Usure de nos...
Oui, ah oui, avant que je l'oublie, je suis allé voir ça hier soir. Alors là, c'est un autre thème. On parle de la violence dans les relations intimes. Et cette fois-ci, c'est vu par un couple de lesbiennes, une pièce qui est écrite et mise en scène par Debbie Lynch White, avec entre autres Kim Despatie qui nous offre une performance absolument incroyable. Alors, Kim Despatie aussi m'a surpris parce qu'elle est tellement sortie de son cadre habituel comme actrice. Alors, une pièce qui nous parle de cette violence qui s'infiltre petit à petit dans une relation de couple. Et je ne veux pas trop divulguer, mais et comment les deux personnages n'arrivent pas à s'en sortir jusqu'à la fin. Et c'est surprenant parce que c'est un couple qu'on ne pourrait pas croire qu'il pourrait avoir ça. Moi, mon seul petit bémol, je sais que Debbie travaille beaucoup sur le silence au théâtre, mais il y a beaucoup de silence et de noir par bout. C'est beaucoup, mais bon, ça c'est mon appréciation. Aussi à voir au Théâtre de la Licorne, là, c'est juste encore pour quelques semaines. Mais on a bien du théâtre, toi puis moi, puis bien des choses à voir, Mathieu. On va en discuter quand on aura la chance, la prochaine fois que j'animerai avec toi.
J'ai plus grand temps pour moi. Quand j'ai le feeling que ma routine commence à me saouler, j'ai juste besoin d'une soirée entre boys pour me retrouver. Oh, une coupe de bière puis on pince sur B. Oh, au pire demain on sera magané. Ça fait des semaines que je fous rien, à part work faut que je décroche. Quand je sors pas là pour me plaindre, là pour payer des chocs. Au boys du hood depuis le temps, tant que la soirée décolle. À se rappeler l'époque où c'était le bordel à sauver des cops. Mais là j'suis all good, thank God, j'ai un dossier clean. Tout est cool, côte de jeans, trou et pose de vie. J'ai les pieds sur terre, mais la tête folle. Damn, dis que mon rêve c'est mon day job. J'garde du temps pour mes vrais jobs, pis j'ai su le faire depuis day one. J'peux pas faire semblant que tout va. J'ai plus grand temps pour moi. Quand j'ai le feeling que ma routine commence à me saouler, j'ai juste besoin d'une soirée entre boys pour me retrouver. Oh, une coupe de bière puis on pince sur B. Oh, au pire demain on sera magané. C'est comme avant, je te prête mon sofa, toi le tien. Si t'es le king à ta job, mec, t'oublies tes boys, t'es le roi de rien. Tout ce qui importe, c'est de savoir sur qui compter dans ce boy. Et bien, je lève la bouteille à notre santé, puis je crache sur toutes ces saletés de chiens. On se voit moins souvent, on est pris dans le tourbillon. Un verre de torboyau, c'est tout ce qui compte. Pour les voisins, c'est pas demain qu'ils l'oublieront. On attendra pas que la mort cogne à la porte avant de coller des chats et se replacer les idées. Fumer des clopes à s'en scraper la gorge jusqu'à ce que le boss soit vidé. J'ai plus grand temps pour moi. Quand j'ai le feeling que ma routine commence à me saouler, j'ai juste besoin d'une soirée entre boys pour me retrouver. Oh, une coupe de bière puis on pèse sur B. Oh, au pire demain on sera magané.
C'était Gros Big et Doug Saint-Louis qui chantaient « C'est plus comme avant ».
Alors, retour au à Ottawa pour Mark Carney après sa rencontre avec Donald Trump. Le Devoir ce matin, donc, il nous raconte ça. Le premier ministre canadien, Mark Carney, a fait face à un accueil glacial hier à Ottawa. Après ses rencontres avec le président états-unien Donald Trump, les chefs de l'opposition se sont montrés très sceptiques des progrès réalisés, le conservateur Pierre Poilievre qualifiant Mark Carney de chef faible. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a ironisé sur la capacité du premier ministre à ne pas se faire planter par M. Trump. Mark Carney a dû défendre son choix d'avoir évoqué de possibles investissements privés canadiens de 1 000 milliards de dollars aux États-Unis. J'ai l'impression d'entendre le capitaine Haddock, 1 000 milliards de dollars. Malgré l'absence d'entente commerciale formelle, les deux dirigeants ont donné des directives pour s'entendre le plus vite possible sur l'acier, l'aluminium et un partenariat énergétique, ce qui relance les rumeurs d'ailleurs sur le projet controversé du pipeline XL. Ah, j'ai une petite vite pour tout le monde. Alors, un petit conseil d'un bon médecin, si tu n'arrives pas à dormir la nuit, c'est parce que, généralement, c'est parce que tu es réveillé. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider comme conseil. Après la pause, on va parler à Monique Kerouac. Et je vous dis donc qu'aujourd'hui, une journée plus froide. Alors, c'est l'automne qui arrive. Alors, habillez-vous.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
On va rejoindre maintenant Monique Kerouac. Salut Monique.
Bonjour, bonjour.
Donc, on va parler de diabète aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Parce que comme je le disais en présentation, il y a un beau dossier dans la revue Québec Science et entre autres un article de Bruno Lamollet qui s'intitule « Un défi individuel à relever en équipe ». Alors, la recherche offre aujourd'hui aux personnes à risque de développer le diabète de type 2, parce qu'il y a aussi le type 1, mais je me concentre sur le type 2, une nouvelle piste pour prévenir cette maladie. Quant à celles qui en sont atteintes, elles peuvent désormais espérer la stopper. Ça, c'est une magnifique nouvelle. On pourrait le faire ici, au Québec, puis inspirer le reste du Canada. On a des preuves, des idées, mais rien ne bouge. Donc, il faut en parler pour que ça avance. Gabéry Dasgupta, je dis bien, médecin-chercheuse en endocrinologie à l'Université McGill, en fait, elle fait allusion à la mise en place d'un programme national de lutte contre le diabète de type 2. Il faut dire, Denis Martin, qu'au Québec, en 2023, on estimait à 640 000 le nombre de personnes atteintes de cette maladie chez les 20 ans et plus, soit près d'un adulte sur 10, d'après l'Institut national de santé publique du Québec. Et c'est 2,5 fois plus qu'une vingtaine d'années. Les programmes de lutte contre le diabète de type 2 vise avant tout à prévenir la maladie. Mais depuis quelques années, on parle aussi de programmes de rémission, de la même manière qu'on évoque la rémission pour le cancer. Deux fronts pour faire face au diabète et réduire le nombre de cas. Pourtant, on dit bien que les interventions se rassemblent. C'est simple, inciter les personnes atteintes et à risque à modifier profondément certaines habitudes néfastes, soit une mauvaise alimentation ultra transformée et une sédentarité qui mène à l'obésité. Ce sont en effet les trois principales responsables du diabète du type 2. Elles provoquent un trouble physiologique que les médecins et scientifiques appellent résistance à l'insuline. Alors voyons ce que cela signifie. Alors, sécrétée par le pancréas, l'insuline, c'est une hormone qui se fixe aux cellules pour y faire entrer du sucre en provenance du sang. Ce sucre, soit le glucose, leur sert de source d'énergie. Quand le taux sanguin de glucose ou glycémie augmente après un repas, par exemple, le pancréas sécrète plus d'insuline afin que ce sucre soit distribué aux cellules des différents organes. Parmi les plus gourmands, friands de glucose, on trouve les muscles qui en consomment beaucoup, les cellules adipeuses qui le stockent sous la forme de graisse et le foie qui le met en réserve pour des besoins ultérieurs. Or, dans le diabète de type 2, les cellules ne répondent plus efficacement à l'insuline. Elles deviennent résistantes à cette hormone. Les cellules absorbent plus, autant plus autant de glucose du sang. Et la glycémie reste élevée en permanence. À long terme, ben, l'hyperglycémie endommage principalement le système cardiovasculaire, les reins et les yeux, des complications caractéristiques de toutes les formes de diabète. Certaines causes non liées au mode de vie contribuent aussi à la perte de sensibilité à l'insuline des cellules et donc à l'hyperglycémie. Il y a la génétique, il y a l'âge, peut-être d'autres troubles de santé et certains médicaments. Mais le diabète de type 2 est surtout lié au mode de vie dit moderne. Aujourd'hui, on peut quasiment passer notre vie assis, déplore Gabéry Dasgupta, au bureau, dans l'auto, puis devant un écran le soir. Bon, plus besoin de se déplacer, on fait livrer tout, y compris les repas. Le danger ne vient pas des graisses sous-cutanées, à l'origine des poignées d'amour, mais plutôt des graisses intra-abdominales. Elles s'accumulent là quand le corps en produit trop.
On appelle ça le gras viscéral, hein, je pense.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est caché, mais ça devient visible à un moment donné parce qu'on a un tour de taille peut-être augmenté.
Une bedaine de bière, comme on dit parfois.
Parfois, oui, c'est vrai, j'avais oublié cette expression-là. Et elles font augmenter donc le tour de taille, mais de l'intérieur de l'abdomen. Alors, le lien biologique entre graisse intra-abdominale et résistance à l'insuline fait encore l'objet d'intenses recherches. Il s'avère complexe, mais en résumé, les cellules adipeuses intra-abdominales produisent des réactions biochimiques qui envoient dans la circulation sanguine des molécules inflammatoires et des acides gras. Ces molécules interfèrent avec la capacité des cellules à répondre à l'insuline. Dans un premier temps, le pancréas compense cette perte de sensibilité en sécrétant plus d'insuline. Ça fonctionne pendant quelques années, mais un cercle vicieux se met en place, puisque l'insuline augmente aussi le stockage des graisses, y compris dans l'abdomen. De plus, au fil du temps, le pancréas, il se fatigue, il s'épuise. Les niveaux sanguins d'insuline baissent et ceux de glucose augmentent en conséquence. En outre, devenu insensible à l'insuline, le foie relâche facilement ses réserves de glucose dans le sang. Le diabète prend lentement possession des lieux. Les dommages causés par un glucose sanguin élevé s'accumulent petit à petit. Les personnes atteintes s'en rendent compte tardivement, souvent bien après l'apparition des symptômes, parmi lesquels on note une augmentation de l'appétit et de la soif, le besoin d'uriner plus souvent et des coups de fatigue. De fait, le diabète de type 2 est habituellement détecté chez les adultes de 45 ans et plus. Mais malheureusement, notre mode de vie malsain, prenant de plus en plus de place, d'ampleur, on le diagnostique de plus en plus chez les personnes plus jeunes. Ce qui est assez désastreux, n'est-ce pas? Alors, le traitement habituel consiste à apprendre aux patients et patientes à vivre avec le diabète, puis la médication, et à adopter des bonnes habitudes de vie pour limiter les complications. Pour cela, on leur recommande une meilleure alimentation, une perte de poids et un mode de vie plus actif. Notons ici que le sport aide à baisser la glycémie en rendant les cellules plus sensibles à l'insuline et en stimulant d'autres mécanismes qui aident le glucose à y entrer. La médication peut s'avérer essentielle pour stimuler la sensibilité à l'insuline, diminuer la glycémie ou favoriser la perte de poids. Mais il faut savoir que chaque médicament provoque des effets secondaires qui sont parfois très difficiles à tolérer. De plus, est-ce qu'on peut se satisfaire de médicamenter à vie des gens de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes? Voilà une question cruciale. Sans compter le coût financier pour ces gens, les compagnies d'assurance ou la société. Enfin, c'est ce que nous dit Blandine Laferrère. Comme beaucoup d'autres spécialistes, cette médecin endocrinologue de l'Université Columbia à New York prône une autre voie, celle de la rémission, par une perte de poids importante. Il y a eu deux études publiées en 2018 et 2020, toutes les deux dans The Lancet. Des patients diabétiques de type 2 ont rétabli leur glycémie en perdant au moins 10 kilos. grâce à une alimentation plus saine et à un mode de vie plus actif. Le taux de succès a atteint 46 % dans la première étude, ce qui n'est pas négligeable, mais la deuxième, 61 %. La différence avec le traitement habituel, ben, au lieu de simplement recevoir des conseils et de l'information sur les bonnes habitudes de vie, hein, on va tous dire oui, 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 on va faire ça, ben, les patients et les patientes ont profité d'un encadrement soutenu pour perdre du poids et revoir de façon radicale leur alimentation. Alors, avec de l'aide, ils peuvent revenir à un état non diabétique, ce qui est quand même incroyable, souhaitable. Oui. Alors, on souhaite ça, Denis Martin, aux milliers de Québécois diabétiques.
Oui.
Alors, l'encadrement est essentiel. C'est ce qu'on peut retenir cet article.
C'est important tout ça. Puis je vais juste préciser, le diabète de type 1, c'est quelque chose avec qui est souvent génétique, où on vient au monde avec. Et le type 2, c'est habituellement un diabète qui arrive plus tard dans la vie et souvent tributaire du style de vie ou de l'alimentation, ou des deux.
Et exactement.
Nous, on va devoir s'arrêter ici parce qu'on a une autre revue qui s'en vient. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci. Morgan N. Lucas est un psychopraticien, essayiste et formateur engagé dans ce qu'on appelle la déconstruction des normes de genre et la lutte contre ce qu'on appelle la domination masculine ou ce que certains disent aussi la masculinité toxique. Alors, j'ai rencontré Morgan Lucas lors de mon passage à Paris en juillet dernier et j'ai eu le privilège de faire une entrevue avec lui. Pour vous le présenter davantage, j'ai publié en 2024 un ouvrage intitulé « Ceci n'est pas un livre sur le genre », un ouvrage qui dénonce le sexisme et le patriarcat. Il y a un peu plus d'un an, lors du procès célèbre de la cause de Gisèle Pélicot, qui a été victime de viol à répétition alors qu'elle était sous soumission chimique, droguée par son mari, ben, il a publié un texte percutant dans Libération, intitulé « Feuille de route pour lutter contre la domination masculine ». C'est signé par plus de 200 hommes et dont plusieurs personnalités. On l'écoute donc nous décrire tout ça.
En fait, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu toutes ces discussions autour du procès Pélicot, on a constaté sur Internet énormément d'hommes qui, malgré la gravité des faits, malgré les preuves, continuaient à dire, pas tous les hommes, continuaient à dire « Oui, mais alors ce sont eux les agresseurs, ce n'est pas moi. » Et bah, ça m'a gonflé.
Ah
ça
oui.
m'a gonflé beaucoup. Ouais.
Pourquoi ?
Bah, parce que je me suis dit, si c'est pas maintenant, avec la gravité, avec le retentissement de cette affaire-là, qu'on décide de prendre nos responsabilités collectivement, c'est quand, en fait ? À quelle gravité d'événement vous allez réagir et vous allez comprendre que vous faites partie du problème ? Et même ne serait-ce que tout remettre à soi, tout dire, bah non, moi ça me concerne pas, moi je suis pas un agresseur, prouve pleinement que vous faites partie du problème, donc il serait temps un peu de se réveiller, quoi.
Donc c'est vraiment la première étape, c'est de reconnaître qu'en tant qu'homme, nous avons une responsabilité, même si nous ne sommes pas des agresseurs de première ligne, là.
Bien sûr, nous bénéficions de fait de notre statut d'homme avec ses privilèges. Et puisque le monde, la société, en tout cas dans laquelle on évolue, a été construite par et pour les hommes, c'est une société patriarcale, de ce fait, on bénéficie à la fois de privilèges, mais on bénéficie aussi de la domination de toutes les autres personnes qui ne sont pas des hommes. Et du coup, à partir de ce moment-là, même si on n'agresse pas, même si on ne violente pas, nos privilèges et notre position dans la société fait que on maintient un système qui est extrêmement oppressif pour beaucoup de monde.
Donc la première étape, ça serait non seulement d'en prendre conscience, mais de dénoncer cette violence.
Alors, déjà, la première étape, ce serait d'en prendre conscience.
Ouais.
Parce qu'il y a énormément d'hommes qui n'en ont pas conscience. Parce que, de fait, quand on... C'est un peu comme demander à un poisson de se rendre compte qu'il est dans l'eau. C'est-à-dire que, de fait, un homme est né dans cette société patriarcale, a été traité, perçu... Et puis, considéré comme un homme dans une société patriarcale, du coup, c'est compliqué de se rendre compte des privilèges qu'on a, c'est compliqué de se rendre compte du rôle qu'on joue dans cette société et dans ces violences et ces oppressions-là. Donc oui, la première étape, c'est de fait de prendre conscience de son rôle, même si de fait, nous, on n'a rien fait de violent, si on n'a pas été un agresseur, si on n'a pas violé ou quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on n'a pas été un agresseur qu'on ne fait pas partie et qu'on n'aide pas le système. Depuis tout à l'heure, on parle de violence masculine, on parle de masculinité toxique, mais il était important pour moi de préciser le fait que les hommes ne sont pas n'ont pas une violence inhérente à leur identité, et que la violence masculine, elle est due surtout au système dans lequel on vit, pas que le système patriarcal, mais aussi le système capitaliste, la suprématie blanche, qui de fait élève les hommes et font vivre les hommes dans des conditions qui, de fait, créent la violence, parfois pour devoir s'en sortir. Donc le fait d'analyser la violence masculine uniquement sous le prisme patriarcal, sous le prisme masculin, c'est passer à côté de l'analyse systémique qu'il est nécessaire de faire dans ce type de situation.
J'aimerais qu'on parle aussi du consentement, parce que ça semble être un mot très difficile à comprendre pour plusieurs hommes.
Oui. De fait, en tant qu'homme, dans cette société androcentrée, donc vraiment centrée sur la masculinité, sur les hommes, sur les valeurs masculines, on nous apprend, dans la sociabilisation primaire, à ce que, globalement, le monde nous appartient. Et comme le monde nous appartient, les autres êtres humains aussi nous appartiennent. Ceux qu'on considère comme des sous-hommes et également les femmes. Et donc du coup, c'est vrai que beaucoup d'hommes partent du principe que on leur doit quelque chose, on leur doit une sexualité, on leur doit fidélité, on leur doit en tout cas des traitements de faveur. Et donc du coup, le consentement n'est pas forcément demandé automatiquement, parce que ce serait un dû et non pas quelque chose qui se partage, qui se demande.
Il y a le consentement, il y a aussi, on sait que non c'est non, mais parfois oui, ça peut devenir non, ça peut changer aussi, et ça aussi il faut en prendre compte.
Bien évidemment, le consentement, c'est pas un consentement, c'est pas comme un contrat qui vaut sur toute la période. L'idée, c'est de se réassurer du consentement de son ou de sa partenaire tout au long de l'acte, et qu'on parle de sexualité, mais on peut parler d'autres choses aussi. L'idée, c'est que s'assurer que son ou sa partenaire est consentant, consentante, peu importe ce qu'on fait, peu importe l'activité, et que ça n'est pas contraint, ou en tout cas qu'elle est dans un état suffisamment conscient pour pouvoir prendre une décision en son âme et conscience.
Morgane, j'ai vraiment fait mes devoirs. J'ai lu cette feuille de route qui a été publiée. Alors, je vais t'amener sur trois autres points, parce qu'on en a nommé deux.
Bien sûr.
Il y a aussi prendre en charge ses émotions en tant qu'homme. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire ne pas rajouter au travail gratuit que font les femmes toute l'année, le travail domestique, le travail des enfants, le travail sexuel aussi, qui, rappelons-le, n'est pas payé, et en les prenant pour nos thérapeutes. Et arrêter de se reposer sur les femmes, et ça peut être nos compagnes, nos sœurs, nos mères, pour pouvoir réguler nos émotions, pour pouvoir gérer nos émotions.
Donc leur transférer notre charge mentale.
Exactement, ouais. Je pense qu'elles en ont suffisamment, et qu'il serait temps qu'on soit des grands garçons et qu'on la prenne en main nous-mêmes.
Troisième point donc, le quatrième, désapprendre les stéréotypes de genre.
Ouais. Ça, c'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est compliqué de faire se rendre compte à un poisson qu'il est dans l'eau, qui respire sous l'eau, parce que de fait, il est né comme ça. Et donc, on est dans une société qui, même si on est en 2025, enseigne encore énormément, d'une manière très binaire, d'être un homme ou d'être une femme. Et donc, on a tout un tas d'injonctions, tout un tas de directives, plus ou moins conscientes et plus ou moins explicites, qui, de fait, vont participer au maintien du système patriarcal, au maintien de la domination des hommes sur les femmes. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se rendre compte des injonctions et de vraiment se poser la question de notre genre, qu'on soit une personne cis ou qu'on soit une personne trans, pour vraiment essayer de faire la distinction entre les injonctions, donc ce qui nous est imposé par la société, par nos familles, par l'école, par les médias, ce genre de choses, et nos véritables désirs, pour essayer de vraiment savoir quelle est notre véritable identité dans tout ça.
Tout à fait. Et le dernier point, mais non le moindre, écoutez nos sœurs.
on a tendance à couper la parole ou à partir du principe qu'on sait mieux que tout le monde.
Ah, le mansplaining.
Voilà.
On appelle ça, là, t'as un petit peu, là, l'homme explication. On a un mot au Québec, puis ça ne me revient pas, mais quand ça me reviendra, je le dirai.
Je crois qu'il y avait m'explication.
M'explication, voilà, ouais. Merci, m'explication. Oui.
La m'explication, effectivement, on a tendance à, même si on ne maîtrise pas un sujet, à partir du principe que comme on est un homme, bah, de fait, on sait mieux que tout le monde. Et du coup...
J'arrive, mais c'est tellement pas drôle. C'est tellement pas drôle qu'on en rit, finalement.
C'est compliqué, parce que c'est le quotidien d'énormément de femmes, en fait, dont l'expertise est totalement éclipsée par un homme qui a une assurance, une certaine confiance en lui, et qui, du coup, à cause de ça, on va l'écouter plus, parce que, voilà, de fait, l'opinion des hommes est beaucoup plus encensée, beaucoup plus écoutée dans la société. Et donc, j'invite finalement les hommes, même ne serait-ce que pour comprendre leurs privilèges, à écouter les récits qui ne sont pas les leurs, plutôt que de présupposer, plutôt que de projeter, plutôt que d'inventer, plutôt que partir du principe qu'ils sont sachants et tout-puissants, de vraiment se poser et d'écouter, plutôt que de dire « bah non, moi, c'est pas comme ça, non, je sais que c'est autrement, non, moi, je suis pas un agresseur ». Non, là, en fait, je suis pas en train de te dire que tu es un agresseur, je suis en train de te dire que je me suis fait agresser. Donc, en fait, ton avis et toi qui tu es, c'est pas vraiment le sujet. Donc, en fait, si on prenait juste un peu de recul pour pouvoir écouter, simplement se nourrir de l'expérience de l'autre, pour pouvoir être ensuite en mesure de se faire sa propre opinion, mais pas partir du principe que notre opinion, puisqu'elle est masculine, vaut mieux que toutes les autres.
Alors, sans vouloir faire de outing, mais je t'ai vu au défilé, à la Marche des Fiertés. Je sais que tu as écrit un livre où tu parles beaucoup de nos communautés. Au Québec, on dit de ELGBTQIA+, pour les deux esprits, oui, pour les personnes autochtones. Ouais. Alors, en quoi ce que tu viens de me dire s'appliquerait, et comment, en fait, non, ça s'applique, mais comment ça s'applique à nos communautés?
Alors, j'ai reçu pas mal de critiques des hommes de nos communautés.
Tu m'étonnes, comme vous dites en France.
Parce que, en effet, comme la tribune, je l'ai écrit au « nous », c'est-à-dire que je ne me suis pas exclu de ce groupe d'hommes, parce qu'effectivement, même si je suis un homme trans, je participe et je bénéficie aussi des privilèges masculins. Donc, de fait, quand je dis nous, c'est parce que vraiment je m'inclus dans le panier, parce que je pars du principe, contrairement à cette phrase très célèbre, que oui, tous les hommes sont responsables, donc moi inclus. Et donc, du coup, je faisais aussi mon autocritique en donnant des conseils à d'autres hommes. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'hommes de la communauté qui on fait la critique que subissant du sexisme en tant qu'homme bisexuel, homosexuel, en tant qu'homme trans, subissant aussi, en tout cas étant beaucoup plus à risque de subir des agressions sexistes et sexuelles, on n'accepte pas qu'on dise « nous » pour nous. On n'accepte pas d'être inclus dans ce « nous » violent, dans ce « nous » patriarcal, parce que nous aussi, on subit de la violence. Et ça, je dirais que c'est quelque chose qui fait beaucoup débat dans nos communautés. À quel point on s'implique, à quel point on s'inclut dans la communauté des hommes, et à quel point finalement soit nos identités cisgenres, transgenres ou nos sexualités nous excluent un petit peu de cette typologie d'hommes qui serait de fait violente. Mais moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on existe en tant qu'homme dans la société, en effet, on bénéficie de privilèges, en effet, on bénéficie d'un statut plus élevé que la moyenne. Alors effectivement, on a la hiérarchie des masculins. Et c'est important de la prendre en question. Et en effet, si on est un homme, si on est un homme gay, si on est un homme racisé, si on est un homme handicapé, on va pas avoir les mêmes privilèges, on va pas avoir les mêmes possibilités que des hommes cis, hétéro, valides, blancs. Maintenant, on fait quand même partie du système. Et si on refuse de voir qu'on fait partie du système, je trouve qu'on fait aussi partie du problème, parce que effectivement, être plus à risque d'être violenté, subir du sexisme, subir de la misogynie, subir des violences homophobes, ne nous garantit pas ne nous immunise pas contre notre propre violence masculine. Donc c'est aussi important, je pense, de prendre ses responsabilités et d'assumer qu'on fait partie du problème. Alors peut-être moins que d'autres, mais en tout cas qu'on participe à maintenir cette société patriarcale.
J'aimerais terminer avec deux questions qui sont personnelles. Alors libre à toi d'y répondre. La première, est-ce que le fait que tu es un homme trans, puisque tu viens de le dire, est-ce que ça te permet d'avoir cette vision parce que tu as vécu dans l'autre corps auparavant, ou en fait dans le corps, dans l'autre identité auparavant, et tu vis dans cette identité-là, est-ce que ça te permet peut-être d'avoir un regard un peu plus éclairé sur la situation?
Alors oui, alors c'est un regard un peu plus éclairé, mais c'est pas un regard sachant.
D'accord.
C'est-à-dire que la tribune, effectivement, je l'ai écrit au nous, mais je l'ai écrit en mon nom. C'est-à-dire que je comprends tout à fait qu'il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce que j'ai écrit dans cette tribune-là, et c'est tout à fait OK. Maintenant, oui, en effet, comme l'explique le sociologue Emmanuel Bobatti, qui a écrit « Transfuge de sexe », au même titre qu'il y a des transfuges de classe, donc quand on parle de classe sociale, les personnes trans sont de fait des transfuges de sexe, parce qu'on passe d'une classe de sexe à une autre. Et donc, de fait, en tant qu'homme, on subit un surclassement. C'est-à-dire que, en tant qu'homme trans, de fait, on passe entre guillemets du bon côté de la barrière, en tout cas un peu plus en haut de la pyramide. Et donc, du coup, on est de fait plus écouté, on est mieux considéré, on est mieux traité dans la société. Alors, effectivement. Il y a cette identité trans qui fait qu'on n'a pas tous les privilèges masculins. Néanmoins, on passe. Voilà, à un cran au-dessus, et nos sœurs trans, au contraire, subissent un déclassement social. Parce que, de fait, elles vont vers la féminité, et elles sont considérées comme des traîtres à leur genre, parce que quitter la masculinité, donc quitter finalement le premier sexe pour le deuxième sexe, comme le disait Simone de Beauvoir, bah c'est un peu une trahison, finalement, de changement de camp. Et donc, de fait, oui, bien évidemment, moi, j'ai remarqué en faisant ma transition, ça fait plus de 15 ans que j'ai fait ma transition, et bien évidemment qu'on m'écoute plus, qu'on me donne plus de crédit, qu'on me regarde autrement, qu'on me considère autrement, et puis surtout qu'on me donne la parole et qu'on m'écoute. Je pense que ça fait aussi partie de cette identité masculine-là, et que si j'étais une femme trans, on me tendrait beaucoup moins au micro, ouais.
Alors, c'était Morgan N. Lucas. Je crois que c'était vraiment une entrevue qui dit beaucoup de choses sur le monde dans lequel on vit présentement, qui a écrit donc ce livre. Ceci n'est pas un livre sur le genre qu'on peut retrouver là, qu'on peut commander en ligne, et qui a aussi été la personne qui a écrit donc ce papier qui est paru dans le journal Libération l'an dernier suite au procès dont Pellicot sur la masculinité toxique, signé par 200 personnes, 200 hommes connus là, en France. Donc, cette entrevue que je voulais diffuser lors de mon émission, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, mais présentement, cette émission n'est toujours pas retournée en ligne. Alors, je voulais pas qu'on perde cette entrevue fabuleuse avec cette personne absolument géniale. Alors, merci donc, Morgan N. Lucas. Je tente de faire une petite nouvelle, tout petite, à ce moment-ci, mais quand même importante. Stérilisation forcée au Québec, un recours collectif qui prend de l'ampleur, qui vient de Radio-Canada.ca. Plus d'une trentaine de femmes Atikamekw de la communauté de Manawan se sont manifestées dans le cadre d'un recours collectif contre le 6 de la Naudière et 3 médecins. Elles affirment avoir subi des stérilisations forcées et non consenties à l'hôpital de Joliette depuis 1980. Ce nombre de victimes est considéré par les avocates au dossier comme n'étant que la pointe de l'iceberg. Elles constatent donc la présence des mêmes méthodes de pression. La stérilisation était souvent présentée comme une simple contraception réversible ou comme une nécessité médicale mensongère. L'action collective autorisée en février dernier par la Cour d'appel du Québec met en lumière des drames dénoncés des années 80 par des rapports autochtones. Elle survient dans un contexte de multiplication des recours similaires à travers le Canada. Après la pause, on va parler du festival Phénoména avec sa nouvelle direction générale et artistique. Et je vous rappelle que c'est le retour du froid. Là, ça commence aujourd'hui. Et puis, si vous avez des légumes à rentrer, c'est le temps de le faire. Parce que ça va geler encore la nuit prochaine. À plus!
Vous pouvez rejoindre au quotidien avec Denis Martin Chabot.
C'est pas la première fois que je pleure. On pensant à toi. Et quand je pense à toi, j'ai le cœur au mauvais endroit. Moi je fais pas confiance au premier venu. Je t'ai donné ta chance, mais t'as disparu.
La chanson « Des excuses » de Pomme.
Alors, drame en santé mentale. Un étudiant se suicide après avoir cherché de l'aide partout. C'est ce que nous propose la presse aujourd'hui. Un reportage qui expose les ratés du système de santé du Québec. C'est dans le cas, donc, d'Arsène Sarukhanian, un étudiant âgé de 20 ans de Brossard qui s'est suicidé l'an dernier. Dépressif et suicidaire, le jeune homme a sollicité 7 établissements et organismes différents en l'espace de 3 mois, incluant 2 visites aux urgences et des centres de crise. Malgré un cas jugé urgent, il a même attendu 11 heures sans être pris en charge lors de sa première visite à l'hôpital. La coroner qui a enquêté sur le décès dénonce une série de ruptures de services, de communication déficientes et d'occasions manquées. Elle conclut que ce dédale a causé une perte d'espoir, un facteur ayant contribué au drame. La mère de la victime a exprimé sa colère. Elle a dit « Mon fils, il voulait vivre, il a essayé partout, mais personne ne l'a aidé. » La coroner a émis 16 recommandations pour forcer le réseau à mettre en place des filets de sécurité adéquats. Radio-Canada.ca, du 7 octobre au Manitoba, des employés de la santé sanctionnés après le transport d'un bébé dans un véhicule non médicalisé. Deux employés du Centre régional de la santé de Dauphin ont été sanctionnés par le Collège des infirmières et infirmiers autorisés du Manitoba. Leur faute, avoir transporté un nouveau-né malade vers un hôpital de Winnipeg à bord d'une camionnette pour handicapés. L'incident, qui remonte à octobre 2024, est survenu après que le mauvais temps ait rendu le transport aérien impossible et qu'un retard ait affecté la disponibilité d'une ambulance. Une gestionnaire aurait alors proposé l'option du véhicule adapté. L'infirmière sanctionnée est accusée de ne pas avoir examiné le dossier du nourrisson ni établi de plan de sécurité d'urgence pour le voyage. Cependant, des acteurs du milieu estiment que cette affaire met surtout en lumière les difficultés de transfert de patients et le manque de ressources dans les régions rurales de la province. Dans le Progrès de Coaticook, les filles d'Isabelle s'installent aux habitations Estia, publiées le 7 octobre. Un nouveau partenariat, donc visant à briser l'isolement, vient d'être conclu à Coaticook. Les filles d'Isabelle ont associé leurs activités aux habitations Estia, un complexe offrant des logements adaptés aux personnes ayant des limitations physiques ou intellectuelles. Grâce à cette entente, l'organisme occupera la grande salle du complexe pour y tenir ses rencontres, mais aussi pour offrir des ateliers ouverts à tous, comme de la cuisine ou de l'artisanat. Cette collaboration est particulièrement appréciée des résidents d'habitations Estia, pour qui les déplacements étaient souvent un obstacle à la participation sociale. Selon une résidente, ces activités inclusives changent leur vie et les aident à sortir de l'isolement et à se sentir aimés. La direction des habitations Estia espère que cette initiative inspirera d'autres partenariats du genre. Radio Gaspésie du 7 octobre, l'étude régionale sur la mobilité des personnes en situation de handicap remporte le prix Papillon de la COFAM. Alors, c'est la Confédération des organismes des personnes handicapées du Québec qui tenait donc son gala annuel samedi à l'Université Laval. Le prix Papillon dans la catégorie du transport a donc été attribué à la docteure Christine Dufour-Turbis de la Direction de la santé publique du CIS de Gaspésie. L'ouvrage publié cette année fait le constat des disparités qui existent entre les services de transport adaptés et d'accessibilité en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Cette étude qualitative offre un portrait réel du terrain. Le rapport est même susceptible de créer un effet papillon, dit donc l'organisation, au-delà du territoire. Le Centre de recherche en innovation spécialisée en développement territorial durable avait interrogé 13 personnes pour dresser un portrait de leur vulnérabilité face aux services de transport adaptés. Alors, par voie de communiqué, on apprend que l'humour caustique d'Anas Asuna, lance la semaine de l'inclusion à l'Université Laval. C'est la deuxième semaine de l'inclusion de l'université qui a été lancée lundi avec un spectacle bénéfice de l'humoriste Anas Asuna. Devant public, l'artiste a utilisé son humour caustique qu'on connaît pour aborder des sujets sensibles comme le racisme, le sexisme et les stéréotypes sociaux. Anas Asuna a fait rire la foule réunie à l'amphithéâtre Hydro-Québec en affirmant avec ironie que le racisme était une chose qui nous unissait partout sur Terre. Ce spectacle s'inscrit dans une série d'activités organisées par l'Université Laval pour célébrer la diversité et le vivre ensemble. Dans le Devoir aujourd'hui, crise de l'hébergement, plus de 5500 Québécois en attente d'une place en ressources intermédiaires. La liste d'attente pour obtenir une place en ressources intermédiaires qui héberge notamment des aînés en perte d'autonomie s'allonge dramatiquement au Québec. Plus de 500 personnes sont ajoutées depuis février dernier, portant le total à 5500 personnes en attente. L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, ARIC, qui se dit très inquiète, pour ces personnes vulnérables, dont près de 3900 sont des aînés. Des régions comme la Montérégie, la Mauricie et les grands centres du Québec sont particulièrement touchés. Selon l'ARIC, le problème majeur est le manque de places créées. Plus de 70 % des appels d'offres publiques auraient été annulés depuis 2020, surtout par manque de soumissionnaires, faute de financement suffisant et pour la construction donc de ces nouvelles ressources. Rapidement, donc, un communiqué de l'Université de Montréal, neurosciences, une piste génétique inattendue, découverte pour les ataxies cérébelleuses tardives, une nouvelle importante, donc, en neurosciences. Des chercheurs ont dévoilé une piste génétique surprenante pour mieux comprendre les ataxies cérébelleuses tardives, un groupe de maladies qui affecte la coordination et pour lesquelles aucune thérapie n'existe actuellement. L'équipe des professeurs, donc Martine Tétrault et Éric Samaru, a concentré ses travaux sur le gène RFC1, longtemps considéré comme un simple contrôleur de qualité de l'ADN dans tout le corps. En étudiant le développement du cerveau, ils ont découvert que ce gène s'exprime surtout dans le cervelet. Des modèles animaux, donc, on a vu que l'absence a causé la mort des cellules nerveuses et une malformation du cervelet, même aux premières étapes de la vie. Donc, cette découverte inattendue pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques pour ces maladies débilitantes. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande sonore du festival Phénoména. Ça donne envie de danser, ça nous donne envie de sourire même hein, quand on entend ce thème musical. Le festival bat son plein jusqu'à la fin du mois d'octobre et pour en parler, nous recevons Gaëtan Paré, nouvelle direction artistique et générale des Filles électriques et du festival Phénoména. D'abord, bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup.
Je commence avec cette question-là. Moi, je connais bien le festival Phénoména, mais pas tout le monde. Alors, c'est quoi?
Le festival, c'est d'abord c'est une programmation qui s'étend sur une vingtaine de jours. Mm-hmm. Et ça vient mélanger tout ce qu'on peut trouver dans marge d'interdisciplinaire, d'indiscipliné, donc des voix qui sont souvent moins entendues. Donc on essaie de faire la place belle à tout ce qui se trouve en marge.
Excellent. Et c'est un festival donc, qui est en cours pendant tout le mois d'octobre à peu près, là. Ça se termine d'ici deux semaines.
Le 24.
24. Alors, Gaëtan, vous prenez la relève de Dekim qui signe cette dernière édition. Le communiqué de presse dit que c'est une programmation plus interdisciplinaire et indisciplinée que jamais. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce thème et comment il se manifeste surtout à travers les différents spectacles?
Bien, moi, j'aime penser que ça se crée des deux côtés. C'est-à-dire que d'une part, jusqu'où la direction se permet d'être indisciplinée en allant sélectionner des choses, puis de l'autre, jusqu'où les artistes aussi proposent des choses qui sortent des cadres. Moi, je réalise en tout cas dans mon propre parcours que on a une grille pour remplir des demandes de subventions, puis pour obtenir les fonds, on a l'impression qu'il faut répondre à cette grille-là. Et nous, avec Phénoména, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de promouvoir des voix singulières, des prises de parole qui viennent justement nous confronter qui expose aussi autre chose qui se passe.
Alors, cette fois-ci, on dit toujours que le festival Phénoména a toujours misé sur l'inclusivité, l'éclatement des formes, comme vous venez de dire, une certaine irrévérence. Alors, ces fils conducteurs-là, comment on les retrouve dans la programmation de la 14e édition?
Bien, moi, c'est la première fois que je vais traverser tous les spectacles. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est sûr que dès qu'on pense à Phénoména, on pense à... Il y a une identité. Puis c'est une identité qui est très, très fluide, mais qu'on reconnaît tout le temps, ne serait-ce que par les affiches qu'a signé Dekim depuis la fondation du festival. Et puis, on va avoir aussi des familles d'artistes avec qui Dekim est en relation, et aussi l'inclusion d'une nouvelle génération d'artistes qu'elle met en dialogue, un peu comme si elle orchestrait des passations entre des générations plus anciennes et des générations plus jeunes. L'identité, pour moi, elle est... d'une part, je trouve que c'est un festival qui ressemble à Dekim. Mm-hmm. Et puis, moi, ce que je suis en train de traverser en accompagnant Dekim, en étant vraiment dans un exercice de passation, c'est d'une part de la voir, elle, occuper presque tous les postes du festival. Elle fait de la direction de prod, à programme, relations d'artistes. Elle arrive dans les salles, elle s'occupe de la technique. C'est très, très impressionnant de la voir aller. C'est une vraie machine. Et moi, je suis vraiment en train de regarder cette pulsation-là, de me questionner justement sur de quelle façon, pour moi, ça va se définir cette inclusivité-là, cette interdisciplinarité-là. C'est un moment très, très heureux, et pour qui, mais pour moi.
Quelques événements qui retiennent mon attention. Malheureusement, je ne pourrais pas y aller, j'ai un autre engagement, mais il y a le 20 octobre, le cabinet féministe pas gentil du tout, qui revient en force pour une 4e édition. Alors, qu'est-ce que cette soirée représente pour vous là, dans l'univers Phénoména?
Bien, c'est le cabaret féministe pas gentil du tout. Bien, déjà, est-ce qu'on peut juste saluer son titre?
Bien,
moi,
oui!
j'adore ce titre. C'est la 4e édition de ce cabaret. Je pense que c'est une autre des volontés du festival, c'est de faire de la place aussi, c'est-à-dire éviter les chambres d'écho et permettre des prises de parole qu'on entend moins souvent, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Dekim, c'est une femme militante, très, très engagée, avec plein d'opinions, et je pense qu'elle témoigne aussi à travers son parcours, des moments où il n'y a pas eu de place pour les femmes de prendre parole. Et puis, elle a créé ce cabaret dans le but de rassembler des voix qui sont ni enregistrées, ni filmées et qui se reproduisent. C'est-à-dire que le cabaret, c'est un one-shot deal. Et puis là, ben, pour tous ceux qui n'ont pas de billets, c'est bien triste, mais là, c'est overbooké, oversold out. Donc, on rassemble des femmes qui ont envie de prendre parole sur leur sujet, sur un sujet de leur choix pendant 5 à 7 minutes. Et ben, évidemment, là, il y a une progression, il y a une programmation, puis une sélection de voix par des Kim. Et pour moi, c'est sous forme de cabaret, donc il y a une animation, mais c'est vraiment à l'image de ce que le festival cherche à faire, c'est-à-dire créer des rencontres entre un public et des voix et des prises de parole.
Il y a deux autres événements qui retiennent mon attention, mais en tout cas, on choisit toujours des événements comme ça, là. Mais je dois dire que le cabaret, en fait, le gala de l'Astroqueer cette année, ça aussi, ça revient, mais d'une autre forme.
On a eu le cabaret de l'Astroqueer. Dekim a vraiment une connexion tangible avec Mathieu Erard, qui est un jeune chorégraphe, danseur, qui avait été sélectionnée dans un cabaret, et puis elle a décidé de lui confier un premier cabaret l'an dernier. Et puis cette année, ben, on pousse plus loin, on modifie ce cabaret, en fait, on le modifie, on le fait évoluer vers un gala. Donc, c'est vraiment Astroqueer parce que, ben ça, c'est propre à l'historique aussi de Phénoména, de s'intéresser à ce qui est au paranormal et puis aux trucs qui sont vraiment... Tu sais, c'est pas une science, l'astrologie, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui pensent, qui vont s'y pencher. Donc, Mathieu a la responsabilité de rassembler des artistes qui le touchent lui, mais toujours dans cette direction entre astrologie, queerness et puis interdisciplinarité. Donc là, il va y avoir du crump, on a des humoristes. Moi, j'ai très hâte d'assister à ce cabaret. On avait eu Mathieu et Raphaël, oui. qui travaillent en duo au cabaret Dada Gamelin, au Jardin Gamelin cet été. Alors, moi, j'ai très, très hâte à ce cabaret.
Et un événement que je vais aller voir, en fait, j'ai prévu d'y être, c'est le collectif nu, collectif Boucan.
Écoute, moi, je les ai ratés. J'étais à Avignon quand le collectif nu était de passage. Donc, j'ai entendu l'écho du spectacle. Et là, je me suis bien gardé de me renseigner sur ce que c'était parce que je veux vraiment avoir la claque en pleine face. Mais ce que je sais, ce que je peux dire, c'est qu'on est vraiment sur un rapport à ce qui est érotique, un rapport à ce qui est au consentement. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire juste pour...
Ça en dit déjà pas mal. Moi, je connais le collectif nu pour avoir déjà vu des spectacles. Je pense que, oui, attendez-vous à être surpris. Alors, oui, Gaëtan, j'aimerais vous amener donc des propositions qui sont ancrées aussi dans les cultures autochtones et afro-futuristes. C'est quoi l'importance de refléter ces voix dans la programmation?
Bien, pour moi, Phénoména, c'est devenu un gros... C'est quand même une grande entreprise. Et puis, je pense qu'on a le devoir. Puis déjà, il y a cette curiosité chez Dekim. Puis tantôt, tu me disais, qu'est-ce qui tisse l'identité du festival? Je pense que c'est ça le mot-clé. Mm-hmm. C'est que c'est à la fois comment est-ce que nous, on aiguise notre curiosité pour avoir de l'empathie puis de l'intérêt sur ce qui nous ressemble pas. Et comment est-ce que nous, on le propose par le festival dans un rapport d'accessibilité, parce que à Phénoména, les billets sont jamais très onéreux. Donc, la présence de ces voix-là, elle est centrale et nécessaire. Donc, moi, c'est sûr que j'entends parler d'Athéna depuis très longtemps, qui va présenter son spectacle Numkal, j'ai de la misère à le dire. Mm-hmm. Donc, on est vraiment entre la culture walking et l'identité de Athéna. Donc, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller voir des vidéos d'Athéna sur son compte Instagram. Il y a une énergie qui se déploie là. Moi, j'ai très, très hâte à ce spectacle.
On arrive à la fin de l'entrevue, mais j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Parce que vous êtes la nouvelle direction générale et artistique là, de Phénoména. Je vais commencer en disant que vous êtes diplômé du programme de mise en scène de l'École nationale du théâtre du Canada, ainsi que de l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM à Montréal. Vous avez assuré plus d'une vingtaine de mises en scène. Je vous laisse continuer.
Ben, oui.
Pas facile de parler de soi. Ouais.
mon intérêt, c'est vraiment de réfléchir. Moi, je pense que je cultive une dramaturgie de la curiosité, puis je pense que c'est ça qui a attiré des Kim dans ma sélection pour le festival, poursuivre son travail. Donc, issu des arts visuels, issu du théâtre, et j'ai fait un très long parcours de 8 ans au sein d'une compagnie de danse contemporaine. Et donc, avec le temps, moi, j'ai vraiment développé une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est une pratique? Est-ce que ça peut être une pratique d'aller voir des spectacles auxquels je sais le moins de choses possibles? De quelle façon ça me traverse? Et moi, c'est ça que j'ai envie d'apporter à Phénoména, aux filles électriques. Ça va se faire, tu sais, je suis pas pressée, ça va se faire lentement. Là, je suis vraiment tu sais, pour moi, c'est très bouleversant parce que je rencontre une personne, je voyais des Kim naviguer dans la ville, dans le Milan, et là, on cohabite dans un bureau depuis plus d'un mois, et c'est très touchant de découvrir cette femme, de découvrir son engagement, son militantisme, et puis on est vraiment dans un rapport là, de passation, c'est vraiment formidable, donc moi, j'ai ce passé-là de touche à tout. J'ai une pratique en photo. Je continue de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est l'art? Qu'est-ce que ça veut dire occuper l'espace d'une scène? Qu'est-ce que ça veut dire prendre parole?
Bien, on aura la chance de découvrir tout ça dans les prochaines éditions du Festival Phénoména que vous allez donc mettre de l'avant. Guetta Paris, merci beaucoup et bon succès.
Merci à vous. À bientôt.
À bientôt.
J'affronte même plus mes peurs, tellement que la vie va vite. J'ai besoin d'un docteur, 3-4 pilules. J'évite mon ennui qui m'invite à me poser trop de questions avant de partir pour de bon.
Moi j'essaie de faire mon mieux, mais c'est jamais assez. Je veux juste aimer encore. Encore un petit peu, je veux seulement m'accrocher à ce qu'on a déjà été avant de partir pour de bon. Pour que tu m'aimes, je lâche le cœur. Pour que tu m'aimes, je prends ta douleur. Pour que tu m'aimes, t'en vaut la peine. Je me sens comme un acteur qui répète le même texte, la même hostie de chanson avant de partir pour de bon.
Puis je replonge à chaque soir dans la même foutue routine, celle qui m'empêche de rire, de me sentir au pouvoir de ma vie qui se dessine. Je veux trouver ma raison avant de partir pour de bon.
Pour que tu m'aimes, je m'arrache le cœur.
King Melrose, Catherine Sans Regret, Benjamin Nadeau pour la chanson « Pour que tu m'aimes ».
Alors hier, sur radiocanada.ca, le paranageur québécois Benoît Huot a été officiellement intronisé au Temple de la renommée para-olympique canadien aux côtés de Sonia Gaudet, Todd Nicholson et son entraîneur Paul Bowes. C'est donc un palmarès de 20 médailles paralympiques, dont 9 d'or qu'il a reçues en tant qu'athlète, un des plus décorés de l'histoire du Canada. Il a aussi grandement contribué à la promotion du mouvement paralympique, le hors de la piscine. L'ancien porte-drapeau a déclaré que cet honneur est une reconnaissance pour tout son entourage, affirmant qu'il faut un village pour créer un athlète. Il se réjouit également de pouvoir partager cette distinction avec ses enfants. Journal de Lévis, le centre de plein air de Lévis a récemment été l'hôte du retour réussi de l'événement caritatif Grimpon pour l'espoir, aussi appelé Grimpon SP. Le défi, qui consiste à grimper le mont Lauzon à répétition pendant 4 heures, a rallié plus de 200 personnes. L'événement, ça se ressemble un peu à Sisyphe, cette histoire-là. L'événement a permis d'amasser plus de 35 000 $ au profit de la cause de la sclérose en plaques. Les fonds récoltés soutiendront directement SP Canada Chaudière-Appalaches, qui œuvre auprès de plus de 1 100 personnes atteintes dans la région. Les organisateurs se disent ravis de ce franc succès qui a dépassé tous les objectifs initiaux de participation et de financement. Ils continuent donc, ils confirment que l'événement sera de retour pour 2026. C'est une trentaine de secondes pour vous dire que l'émission fera relâche lundi en raison de la journée de l'Action de grâce. Et je serai de retour en remplacement d'Hélène mardi de la semaine prochaine. Je remercie donc toute l'équipe, hein, Mathieu Tessier, d'avoir bien voulu faire la mise en onde et même de nous parler de théâtre. On se voit souvent dans les soirées de spectacles comme ça. Merci donc aussi à Hélène Denis qui a fait beaucoup de travail de recherche à cette émission. Je m'appelle Denis Martin Chabot. C'est toujours un plaisir d'être à l'antenne de Canal M. Je vous souhaite de passer un bon week-end, puis couvrez-vous un petit peu. Thank you.